Au moins 33 soldats turcs ont été tués jeudi 27 février à Hatay, situé à Idlib, dans le nord-ouest syrien. Gilets jaunes, un nouvel appel à manifester lancé à Strasbourg. Et les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar ont bombardé jeudi matin l'aéroport international de Mitiga à Tripoli en Libye. C'était les titres. En voici le journal. L'Université des sciences médicales de Bariatalla à Téhéran a lancé 3 projets de recherche avec pour objectif de découvrir le vaccin du COVID-19. Le docteur Alireza Jalali, directeur de l'Université des sciences médicales de Bariatalla à Téhéran, a annoncé ce jeudi 27 février que depuis la semaine dernière, les comités scientifiques de son établissement se sont mobilisés pour découvrir le médicament le plus efficace contre le coronavirus ainsi que pour offrir les plus récentes méthodes de traitement à la guérison des malades atteints par le virus. La semaine dernière, 3 nouveaux projets ont été lancés pour développer le vaccin et le médicament contre le coronavirus. Nous prévoyons qu'ils aboutiront à un résultat satisfaisant dans les 3 à 6 mois à venir, a-t-il indiqué. Évoquant l'expérience réussie de l'Iran quant à la fabrication du vaccin de la grippe, le responsable universitaire a espéré la même chose pour le coronavirus et a déclaré « Pour l'instant, il est impossible de livrer les détails sur les projets de traitement du COVID-19, sauf que le ministère de la Santé et la Direction de recherche et de l'industrie du Corps des gardiens de la Révolution islamique participent aux étapes de la réalisation du projet lancé dans le centre génétique de l'Université de Bariatalla. À l'heure actuelle, les médecins et les chercheurs ont terminé la conception du plan du développement du vaccin. Le projet sera financé par l'Université de Bariatalla ainsi que par 2 autres universités, a-t-il indiqué. Prenant en considération la phytothérapie comme 3e recours à la guérison des personnes atteintes par le virus, le responsable iranien a affirmé « Les spécialistes en médecine traditionnelle mènent des recherches afin de découvrir un remède à base de plantes ». Tout en espérant que tous les 3 projets conduiront à la découverte d'un traitement définitif du COVID-19. Au moins 33 soldats turcs ont été tués ce jeudi 27 février à Hatay, situé à Idlib, dans le nord-ouest syrien. Ces soldats ont été tués lors d'une frappe aérienne près du village d'Albara, à Jabal al-Zawiya, à la périphérie de la province d'Idlib. Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, et le ministre turc de la défense, Hulusi Akar, se sont entretenus jeudi par téléphone. Au cours de cet entretien téléphonique, ils ont discuté de l'attaque de l'armée syrienne contre Idlib. 4 hélicoptères de l'armée turque ont pénétré dans l'espace aérien syrien pour transporter les corps des soldats tués et blessés. La Turquie a décidé d'ouvrir immédiatement sa frontière sud-ouest avec la Syrie et de permettre aux déplacés syriens fuyant la guerre d'emprunter le passage libre pour se rendre en Europe, ont déclaré des sources officielles turques au web site Middle East Eye basé à Londres. Un responsable turc a déclaré que les réfugiés syriens se dirigeant vers l'Europe ne seront pas arrêtés sur terre ou par mer, a-t-on appris de la même source. La politique d'Ankara sur les migrants n'a pas changé, mais la Turquie ne pourra plus stopper leur afflux, a déclaré un porte-parole du parti au pouvoir en Turquie en réponse à des informations diffusées par certains médias sur la décision d'Ankara d'ouvrir ses frontières aux déplacés syriens. Les hélicoptères de l'aviation israélienne ont attaqué les positions de l'armée syrienne dans la province de Quneitra. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, des hélicoptères de l'aviation israélienne ont violé l'espace aérien des hauteurs du Golan avant de frapper des positions de l'armée syrienne dans la province de Quneitra. 3 soldats de l'armée ont été blessés. Certaines sources font également part des frappes israéliennes visant les positions de l'armée syrienne Al-Qataniya, Al-Huriya et Quneitra. Les frappes aériennes israéliennes ont été aussi confirmées par les responsables syriens. Jeudi 27 février, un drone israélien a visé un véhicule au sud de la Syrie. Un civil a été tué. Un civil a trouvé la mort après avoir été pris pour cible d'un drone de l'aviation israélienne au sud de la localité de Hadzer, dans la province de Quneitra, a annoncé Sana. Le régime israélien vise de temps en temps le sud de la Syrie par des attaques aux missiles et aux drones, dont la plupart sont menées pour remonter le moral des terroristes pro-Israël en Syrie. Un réseau Telegram israélien a écrit que les médias de ce régime, après une période de censure, ont avoué l'existence de 1400 cas de coronavirus COVID-19 dans les territoires occupés. Dans ce contexte, le cabinet du régime israélien a conseillé aux citoyens de ne pas assister aux réunions internationales et aux cérémonies religieuses avec les étrangers pour éviter d'attraper le coronavirus. Dans une note publiée mercredi soir, le ministère israélien de la Santé a exhorté les Israéliens à ne pas se rendre en Italie, pays méditerranéen qui compte pour l'heure 12 décès sur son sol pour environ les 400 cas recensés. Il y a une forte chance que la maladie se soit répandue dans d'autres pays d'Europe et dans de nombreuses autres régions du monde. C'est pourquoi le ministère de la Santé exhorte la population à reconsidérer son besoin de voyager à l'étranger d'une manière générale, a souligné le ministère. Aussi, les déplacements dans des conférences internationales et les voyages dans des événements religieux où des personnes de plusieurs pays différents se réunissent doivent être évités, a ajouté le ministère. Le communiqué ministériel n'indique pas quelles sont les cérémonies religieuses à éviter, mais étant donné le fait que la plupart des Arabes israéliens sont musulmans, il semble bien qu'il fait allusion aux cérémonies du Hajj en Arabie saoudite. Le régime de Riyad a par ailleurs annoncé qu'il avait interdit le rituel de Hajj aux citoyens des autres pays afin d'éviter la contagion sur le sol saoudien du coronavirus. Israël a déjà officiellement annoncé deux cas de coronavirus et la peur plane sur les élections israéliennes et les autorités s'inquiètent du fait que le taux de participation soit très bas. Tout comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, Israël avait jusqu'ici caché le bilan exact des personnes atteintes. Quittons la région et allons directement en France, où une manifestation contre la réforme des retraites aura lieu à Strasbourg ce samedi 29 février 2020. Le cortège de l'acte 78 partira de la place de l'Étoile vers 13h. La coordination des Gilets jaunes du Bas-Rhin a lancé un appel régional à manifester. Le rendez-vous pour l'acte 78 est donné vers 13h, place de l'Étoile. Des stands d'information seront également installés sur la place Kléber, point final du parcours emprunté par le cortège. Si les manifestants gardent en tête leurs principales revendications, à savoir une meilleure justice sociale et fiscale, ils invitent volontiers d'autres mouvements à se joindre à leur cortège. Ainsi, entre 15h et 16h, place Broglie, des manifestants anti-GCO, grand contournement ouest, prendront part au cortège des Gilets jaunes lors d'un hommage au préfet responsable du GCO, l'ancien préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx. Celui-ci a quitté son poste pour être candidat aux élections municipales à Cahors. Remplacé par Josiane Joallier, il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2020. Toujours mobilisés, les Gilets jaunes demandent principalement la suppression des taxes sur les produits de première nécessité, le retrait de la réforme des retraites et le plafonnement des loyers. Et enfin, pour fermer le journal, les forces du gouvernement d'Union nationale de la Libye, GNA, ont annoncé que les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar avaient à nouveau bombardé jeudi matin l'aéroport international de Mitiga à Tripoli avec des roquettes grattes. Sur sa page Facebook, le bureau de communication de l'opération Borkan al-Razab, volcan de la colère du GNA, a annoncé que les miliciens de Khalifa Haftar avaient tiré des missiles Grad en direction de l'aéroport de Mitiga et de la localité de Sharafa, située à côté. L'attaque contre cet aéroport est considérée comme une violation du cessez-le-feu. Les milices de l'armée nationale libyenne, dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, ciblent les citoyens, est-il écrit dans ce communiqué. En effet, mercredi, les forces du gouvernement libyen ont fait savoir que les troupes de Haftar avaient ciblé l'aéroport international de Mitiga dans la capitale Tripoli pour la deuxième fois consécutive lors des dernières 24 heures, a rapporté Anadolu. De ce côté, le correspondant d'Anadolu dans la région a affirmé qu'au cours des deux derniers jours, les milices de Haftar avaient intensifié leur bombardement à l'aveuglette contre des quartiers résidentiels. Le gouvernement libyen d'Union nationale a pour sa part annoncé que son artillerie a pilonné la zone depuis laquelle les forces de Haftar avaient attaqué les quartiers résidentiels. Après le renversement en 2011 de Muammar Kadhafi, ancien dictateur libyen, la Libye a été divisée en deux, entre le gouvernement d'entente nationale de Faisal Sarraj, basé à Tripoli, et un gouvernement parallèle à Tobrouk, dans l'est du pays, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les pressions américaines sont loin d'ébranler l'Iran. C'est dont nous vous parlerons dans ce commentaire politique. La politique de pression maximale américaine contre l'Iran risque de saper les chances d'un dialogue. C'est ce qu'a écrit le quotidien américain The New York Times jeudi 27 février. La politique de pression maximale de l'administration Trump et de la capacité de Téhéran de rester stable, même sous les pressions accrues, est inefficace. Près de deux mois après l'assassinat du plus important général iranien, l'administration Trump insiste sur le fait que sa campagne de pression maximale fonctionne. Or, de nombreux alliés des États-Unis sont sceptiques. Les alliés européens et d'autres puissances mondiales se sont opposés aux sanctions contre l'Iran, en particulier l'embargo pétrolier, tandis que les États arabes du Golfe Persique les ont soutenus. Mais les deux parties sont désormais unies par la crainte que la campagne de pression américaine ne mette fin à tout espoir de négocier un nouvel accord nucléaire. En Europe, les responsables ne croient pas que la campagne de pression maximale ait freiné la poursuite par l'Iran de ses activités nucléaires. Un diplomate européen a déclaré que de nombreux Européens restent préoccupés par le fait que l'administration Trump poursuive un changement de régime, même si les responsables américains insistent sur le fait que ce n'est pas l'objectif. Selon le quotidien américain, les diplomates ne s'attendent pas non plus à ce que l'Iran cesse de soutenir ses alliés. Par ailleurs, les États arabes ont mis en garde contre l'aggravation de la violence dans la région. Si Téhéran se sent trop poussé par les États-Unis, indique le texte. Les sentiments anti-américains gagnent du terrain en Irak, a déclaré un responsable américain. Un diplomate du Moyen-Orient a également prédit que l'Iran mènerait plus d'attaques similaires à celles contre des champs pétroliers clés en Arabie Saoudite pour tester l'administration Trump. Même le sénateur Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud, connu pour ses tendances anti-iraniennes, a reconnu que l'administration Trump n'offrait rien pour inciter l'Iran à venir à la table des négociations. M. Graham a déclaré qu'il travaillait sur des incitations potentielles que Washington pourrait offrir à Téhéran. De hauts responsables du Moyen-Orient qui sont régulièrement en contact avec l'administration Trump à propos de l'Iran ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran accepte de commencer bientôt de nouvelles négociations avec les États-Unis. Au lieu de cela, ont-ils déclaré, Téhéran attendra de voir le résultat de l'élection présidentielle américaine de novembre avant de décider d'une nouvelle stratégie. Selon la publication américaine, les diplomates étrangers ont déclaré que Mike Pompeo souhaitait que les futures négociations avec l'Iran incluent davantage de parties, ajoutant Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, au pourparlers qui avaient précédemment eu lieu entre la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne. En plus, les responsables du renseignement américain ont déclaré au Congrès que l'État iranien restait stable, même sous pression, conclut l'article. Après s'être unilatéralement retiré de l'accord nucléaire, Washington a lancé une série d'actes de provocation contre l'Iran. Mettre le nom du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes, assassiner le général de corps d'armée Rassem Soleimani, commandant en chef de la force ROTS du CGRI, et imposer des sanctions visant les hommes d'État iraniens. Donald Trump justifie tous ces agissements dans le cadre de sa politique d'oppression maximale.